Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel?
La réalité aujourd'hui dans notre pays,
c'est la stricte vérité.
La réalité, c'est une réalité. La réalité de la gravité de ce qui se passe.
Réalité.
Ça, c'est le monde que tu connais.
Je suis dans la réalité.
La réalité dans ce qui a été annoncé.
Réalité. Toujours quand c'est vous qui parlez.
C'est la vérité. C'est les faits.
Tu viens d'un monde imaginaire, Néo.
C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici.
Ça, c'est la réalité.
Ne serait-il pas beau que chacun ait ce qu'il mérite? C'est le projet en tout cas du système méritocratique qui voudrait déterminer la position sociale d'un individu selon son mérite, celui qu'il accumule depuis sa naissance, par son travail bien sûr. Il s'opposerait en cela à l'aristocratie qui elle distribue le pouvoir à la naissance en la transmettant par le sang. Au cœur du projet politique de la méritocratie, l'école républicaine, vecteur d'élévation sociale par lequel chacun aurait sa chance d'emprunter l'ascenseur. L'OCDE rappelle en 2018 que 6 générations seront nécessaires à un enfant né de famille modeste pour atteindre le revenu moyen. Mais y regarder de plus près, seuls quelques sentiers connus des initiés paraissent mener aux plus hautes fonctions, faisant bien souvent de notre place dans la pyramide méritocratique une loterie en grande partie décidée à la naissance. Et la sociologie, bien plus que toute autre discipline, y a un lien particulier. Peut-être parce qu'elle répond de ce qu'elle a enfanté, car oui, la méritocratie est bien une invention. Celle du sociologue britannique Michael Young, qui publie en 1958 The Rise of Meritocracy, la méritocratie en mai 2033. Le livre dépeint les travers d'une société dystopique qui choisit d'instaurer une aristocratie du talent, dans laquelle l'humanisation des individus est corrélée à leur intelligence supposée. Toutefois, le mérite n'est pas une chose nouvelle. En France, il trouve un écho particulier lors de la première révolution, celle de 1789. Il propose alors un modèle alternatif à celui de l'héritage des privilèges. Condorcet, père fondateur de l'idéal méritocratique, a implanté dans l'esprit français un mythe qui a la dent dure. De l'injonction à la responsabilité personnelle à la dépolitisation des déterminismes sociaux, depuis plus de 200 ans, il est le terrain de la lutte des classes.
Pourquoi vous et moi, on n'est pas dealeuses? Pourquoi est-ce qu'on est là? À un moment, il y a des choix qui sont faits. Les choix, ils sont faits parce qu'on montre à ces jeunes qu'il y a d'autres voies possibles et qu'ils ne sont pas obligés de tomber dans le
monde. Personne n'a envie de réussir si on voit quelque part accroché à son front une étiquette « j'ai réussi à tel ou tel examen ou à tel ou tel diplôme parce que je suis d'origine maghrébine, africaine, vietnamienne, etc. etc. » Non, je pense que la République doit mettre à égalité tous ses enfants. Il y a des systèmes de bourse pour cela.
En France, c'est de l'école que sortiront les élites et pas de la naissance. Cela voulait dire désormais que ce qui compte en France pour réussir, ce n'est plus d'être bien né. Pour réussir, c'est travailler dur et avoir fait la preuve, par ses études, par son travail, de sa valeur.
Chaque pays a ses hypocrisies. Alors en France, la palme de l'hypocrisie, c'est sans doute le fait qu'on arrive dans le système éducatif de l'enseignement supérieur à investir 3 fois plus de ressources par étudiant qui va en classe préparatoire dans les grandes écoles que dans les étudiants qui vont dans les filières universitaires moins sélectives, moins bien dotées, alors même que le premier groupe d'étudiants est socialement beaucoup plus favorisé que le second. Donc on a réussi à inventer un système d'enseignement supérieur en toute bonne conscience, républicaine comme il se doit, on investit 2-3 fois plus de ressources par étudiant chez des groupes qui sont socialement plus favorisés que les premiers. Donc ça c'est quand même vraiment la palme.
Chers auditeurs, bienvenue dans la réalité. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se penche sur la méritocratie et avec nous pour en parler, Paul Pasquali. Il est chercheur au sein de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, l'IRIS. Il étudie les mobilités sociales et la socio-histoire des élites scolaires. En 2014, aux éditions Fayard, il publie « Passer les frontières sociales, comment les filières d'élite entrouvrent les portes », où il suit pendant 5 années des jeunes ayant intégré des grandes écoles via les filières dites d'égalité des chances. En 2021, il revient avec Héritocratie, les élites, les grandes écoles et la mésaventure du mérite 1870-1920 aux éditions La Découverte et à la collection L'envers des faits qu'il co-dirige. Paul Pasquali, bonjour.
Bonjour.
Les récits à la première ou à la troisième personne de ceux qu'on appelle les transfuges de classe sont nombreux. On est moins habitué cependant à percevoir la méritocratie dans sa dimension historique. Or, c'est là tout le parti pris de votre livre, de penser la méritocratie donc comme une notion non pas figée, mais en évolution. Quels sont les bénéfices d'un passage aux lunettes du temps pour vous des discours sur la méritocratie et de la manière de les percevoir ?
Je dirais que ça permet tout d'abord d'interroger ce qui fait du mérite autre chose qu'un idéal ou une idéologie, mais un enjeu de lutte. Historiquement, le mérite, vous l'avez dit, est né avec la Révolution française, et c'était avant tout une manière pour la bourgeoisie triomphante de se distinguer de l'aristocratie, et puis ensuite de marquer la distance avec le peuple quand il demandait un peu plus de droits. Aujourd'hui, le mérite tend à fonctionner un peu comme un discours consensuel hein, pour rassembler, parfois pour se faire élire, hein, on l'a entendu tout à l'heure dans les extraits. Les candidats aux élections ont tendance à réutiliser ce terme et prendre du champ à travers l'histoire, c'est montrer que ce terme a une histoire, qu'il est un enjeu de lutte et que ça signifie que pour des groupes sociaux, l'utiliser dans des sens différents, avec certaines définitions, ça leur permet de consolider leur position ou au contraire de modifier l'ordre des choses. Donc en l'occurrence, le terme de mérite est ancien, mais celui de méritocratie est plus récent. Et il faut justement en passer par une enquête historique pour comprendre pourquoi il intervient comme ça dans les années 60, alors qu'auparavant, il venait à l'esprit de personne de parler de méritocratie. Et en même temps, la perspective historique, au-delà de la question du mérite, elle permet de prendre de la distance avec le présentisme, le court-termisme.
L'ascenseur social qui serait en panne, voilà. Suggérant qu'un jour, il aurait parfaitement fonctionné.
Exactement, et plus largement, on constate que tous les 10 ou 15 ans, il y a une manière pour un certain nombre de commentateurs, d'élus, de responsables politiques. On fait comme si on redécouvrait toujours un peu le même problème, alors que ce problème est ancien. Et justement, c'est en faisant l'histoire longue, donc sur 150 ans de réformes, de controverses, de débats, qu'on perçoit à quel point c'est un problème ancien, à quel point la fermeture des élites et de leurs antichambres scolaires, classes préparatoires et grandes écoles en particulier, ne date pas d'hier. C'est un vieux problème qui a été souvent débattu et qui, pour ce qui est d'un sociologue, mérite d'autant plus d'attention que, d'un point de vue des constats statistiques, le constat de la fermeture est aussi ancien et a été fait plusieurs fois. Depuis 70 ans, il y a eu énormément d'enquêtes, bien d'ailleurs avant Bourdieu et avant Passeron, avant les héritiers, qu'on connaît le mieux, mais je parle dans mon livre, par exemple, de l'enquête de l'INED autour d'Alain Girard, qui part en 61, qui montre que déjà, dans les années 50, cet ascenseur social n'existe pas. En tout cas, pas au niveau des élites. Et qu'il y a cette fermeture des grandes écoles qui est un fait ancien, qui est un fait structurel, en fait. Et tout l'enjeu est de comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, il faut aller au-delà des discours sur l'actualité, des discours récents. Et il ne faut pas croire que ce problème daterait seulement d'aujourd'hui.
Justement, avant d'aborder les bornes qui jalonnent cette histoire d'avancée, de retour en arrière, de contournement et d'invention. J'aimerais aussi comprendre ce que j'ai évoqué un petit peu dans mon édito, mais que moi-même je peine encore à percer. C'est d'une part la centralité de l'école dans cette notion de méritocratie comme système politique, et d'autre part le rôle des grandes écoles au sein de la méritocratie.
La centralité de l'école... Là aussi, c'est un fait ancien qui a été largement documenté par les historiens, par les sociologues. Ça a à voir avec la Révolution française et plus particulièrement avec la Troisième République. Avec ce moment, donc entre les années 1870 et 1900, pour résumer, où se construit la nation et ce qui va avec, c'est-à-dire l'idéal d'une école laïque, gratuite, obligatoire, un développement d'un pays moderne qui mise sur l'école aussi pour construire une nouvelle société dans laquelle il y aurait une égalité des chances. Donc c'est le moment qui rompt définitivement, même si c'est très lent et non sans problème, avec l'idéal ou l'idéologie aristocratique qui avait subsisté pendant tout le 19e siècle. Hein. C'est pour ça que les romans de Balzac, etc., on retrouve cette idée d'un poids des héritages. Bon, là, il y a l'idée que c'est par le mérite que chacune peut s'élever. Et de fait, quand on regarde la réalité, on voit bien que l'école est importante d'un point de vue idéologique pour le régime, l'école essentiellement l'école primaire, puisqu'à l'époque, l'essentiel d'une génération allait seulement à l'école primaire jusqu'à 11 ou 12 ans. Une seule petite élite allait dans l'enseignement secondaire, avait droit au lycée et aux études supérieures.
Peut-être est-ce le moment de laisser Pierre Bourdieu le souci de nous expliquer le système dual éducatif français.
Alors, les Meryl vont jouer d'emblée avec toutefois des moments charnières qui changent selon les époques. C'est-à-dire qu'il y a eu longtemps, jusqu'aux environs de 1960, la coupure était l'entrée en sixième. Bon, c'est là que, historiquement, enfin, c'est là que se produisait le grand schisme, enfin, la grande séparation entre ceux qui allaient au lycée et ceux qui allaient dans la vie. Bon, avec une sous-coupure entre ceux qui allaient vers le secondaire et ceux qui allaient vers le primaire supérieur. Bon. Et ce qui se reproduisait d'ailleurs dans la conscience des gens sous forme d'une opposition très fondamentale, opposition entre les esprits primaires et les esprits vraiment cultivés, c'est-à-dire secondaires. Bon. Cette opposition a été biffée, non pas biffée, elle a été masquée, brouillée par la prolongation de la scolarité, par la création d'une série de niveaux édredons, enfin, bon, dans lesquels se noient un certain nombre de différences. Cela dit, la coupure est en train de se restaurer au niveau de la troisième, c'est-à-dire du passage en seconde, à travers bon, la hiérarchie des filières nobles et ignobles, enfin, à travers aussi la hiérarchie anticipée. Enfin, bon, c'est-à-dire qu'au fond, dès la seconde, un certain nombre de jeux sont faits.
Nous sommes en 1977 lorsque Pierre Bourdieu s'exprime sur le système français, plaçant la césure après la troisième, avec un basculement qui s'opère au lycée, une distinction qui est toujours effective entre les bacs dits généraux et les bacs professionnels, bien que la frontière est encore un petit peu atténuée avec la réforme du baccalauréat, mais elle se déplace aussi entre l'université et les grandes écoles.
Oui, et c'est intéressant d'écouter cet extrait, puisque aujourd'hui, en 2021, bon nombre des analyses de Bourdieu restent valables, à condition de, voilà, de les actualiser et de voir comment le système a beaucoup évolué. Et je dirais que cette frontière dont il parlait, aujourd'hui, elle se situerait plutôt au niveau du bac. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu une réforme si récente, Parcoursup, et la réforme du bac, et qu'elle a fait autant couler d'encre, et qu'on est encore dans une phase où on voit bien que c'est une forme de retour en arrière. Il y a un désir de revenir à un modèle sélectionniste qui auparavant existait plus tôt, hein, donc, soit à l'issue de l'école primaire, soit plus tard avec l'arrivée des scolarités longues dans le secondaire. L'enjeu, c'était l'entrée au lycée, hein. Voilà, et de fait, il y a effectivement, avec l'histoire, plus le temps passé dans le système scolaire se prolonge, plus la frontière se déplace plus loin. Et on peut constater que toutes les réformes qui ont été menées pour unifier, pour faire disparaître la frontière entre enseignement primaire et secondaire, puis pour démocratiser, ou en tout cas ouvrir à une plus grande part d'une génération les portes de l'enseignement supérieur, c'est fait dans le respect des hiérarchies anciennes, au sens où la coupure entre université et grandes écoles se maintient et joue finalement le rôle que pouvait jouer autrefois la coupure entre enseignement primaire et secondaire. Et de ce point de vue, pour répondre tout à l'heure à votre question sur à quoi finalement, pourquoi il y a des grandes écoles, etc., il faut bien voir qu'initialement, les grandes écoles sont nées à l'extérieur des universités parce que les universités ne formaient pas un certain nombre d'emplois qui nécessitaient des compétences ou des qualités professionnelles très particulières, mais que progressivement, ce secteur des grandes écoles a grossi, a grandi et a joué un rôle beaucoup plus fondamental de reproduction sociale des élites et de, tout simplement de formation d'un certain nombre d'élites dont avait besoin l'État, à mesure que l'État aussi a eu un rôle de plus en plus important dans l'économie. À partir du moment où le rôle de l'État est moins évident, en tout cas moins important, voilà, on est dans une phase où il y a un certain nombre de discours et de politiques qui visent à organiser son retrait, en tout cas d'un certain nombre de sphères. Le rôle des grandes écoles dans ce qu'elles peuvent avoir comme partie liée au développement de l'État et des élites d'État est moins évident. On voit mieux, finalement, on perçoit mieux ce qu'elles peuvent avoir d'arbitraire à partir du moment où elles prennent des places que l'université pouvait autrefois avoir, puisqu'elle formait aussi l'élite, l'université, et qu'elle tend à déléguer désormais aux grandes écoles, aux classes préparatoires, en devenant finalement une voie de remédiation, ou en tout cas, même s'il y a des filières d'élite dans les universités, bien sûr, mais en tout cas, une voie de second choix, ne serait-ce qu'au niveau des choix budgétaires qui sont faits, hein, puisque les universités sont bien moins financées que les grandes écoles.
Ce que corroborait Thomas Piketty dans l'extrait d'introduction en rappelant le décalage entre les financements et la non-correspondance dans la philosophie d'égalité des chances de surfinancer des gens qui déjà ont bénéficié en amont de cela dans leur parcours de privilèges. Justement, vous parlez donc de cette histoire qui n'est pas un long fleuve tranquille. La survie et la création et la modification et l'évolution des grandes écoles, vous auriez pu la faire commencer avant à la Révolution française, au moment où justement une partie des écoles dites spéciales ont été mises en place, l'école normale supérieure, Polytechnique, qui, on le rappelle, sont jusqu'à présent non pas sous la direction du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, mais bien sous chaque corps dont elle dépend. L'ENS, en l'occurrence, est effectivement sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, mais Polytechnique est sous la responsabilité du ministère des Armées, etc. Vous avez décidé de commencer en 1870, cette histoire, pourquoi ?
Parce que 1870, donc, c'est la naissance de la Troisième République, même si le régime républicain, comme chacun sait, a mis une dizaine d'années avant de s'enraciner. Et donc c'est l'acte de naissance d'une conception moderne de l'élitisme républicain, c'est-à-dire d'une conception moderne de ce qui fait, qui est censé faire le partage absolu entre mérite et héritage. On doit sa position à ses mérites personnels et non pas à son héritage. En tout cas, c'est ça le discours qui, à ce moment-là, devient un discours officiel et consensuel au sein des élites républicaines montantes.
Est-ce que la révolution de 1848 joue un rôle ?
Oui, au sens où c'est un jalon dans la réflexion des républicains. Évidemment, quand ils arrivent au pouvoir, ils reviennent au pouvoir dans les années 1870, cette idée de refonder une société où l'égalité des chances a une place centrale, effectivement. Mais par contre, on a changé de génération, c'est plus du tout les mêmes personnes qui sont à l'origine de la construction d'un système public fondé sur une éducation plus démocratique qu'auparavant. Ce qu'il faut voir, c'est que la Troisième République, elle est basée sur un système qui est à la fois beaucoup plus progressiste qu'auparavant, que le Second Empire, la période de la monarchie, la Restauration avant Napoléon Ier, mais en même temps, c'est un système qui est formidablement inégalitaire. Il y a une très forte ségrégation. On ne mesure pas aujourd'hui, il y a un tas de mythes qui reviennent sur le tapis régulièrement.
On va aborder la figure du boursier.
Voilà. Et les instituteurs après, comme Hussard Noir de la République, etc. Il y a une part de vérité, mais c'est très largement oublié, en fait, sur quelle misère, en fait, ce système reposait. Une misère non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, les étudiants, et pour les familles, en fait, qui... quand on était ouvrier ou paysan à l'époque, il était impensable déjà d'aller à l'école tout court et d'y rester longtemps. Et ça a perduré jusque dans les années 40-50. Il faut voir quand même qu'au milieu des années 50, la moitié d'une génération n'allait pas au-delà de la classe de première. On a complètement changé de société de ce point de vue-là. Donc revenir à ces années 1870, c'est aussi voir comment s'est joué à ce moment-là quelque chose de différent d'avant. Et la renaissance et la mise en œuvre d'un programme idéologique qui n'était qu'embryonnaire, puisque la Révolution française a très tôt refermé un certain nombre de brèches. Il faut quand même voir Condorcet est mort en captivité à ce moment-là, pendant la Révolution française. Vous avez parlé de Polytechnique et d'École normale supérieure. Elles ont été en fait refondées. Il y a eu plusieurs écoles normales supérieures et plusieurs écoles polytechniques en fonction des régimes. Et par contre, celles qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit Polytechnique ou d'ENS, ressemble plus à celles qui sont nées à ce moment-là. Les promesses républicaines en termes d'égalité des chances de l'époque ont été sans cesse reprises depuis par les régimes successifs, que ce soit sous la 3e, 4e ou 5e République. Et donc, il y a une vraie continuité, si on peut dire, au moins idéologique, dans les promesses que ces écoles-là incarnaient en termes d'ascension sociale, en termes de tout simplement de réussite liée strictement au mérite personnel.
Dans ce contexte, l'apparition de la figure du boursier, qui est aujourd'hui toujours centrale dans le débat sur la méritocratie, sur l'école, sur l'égalité des chances. Avoir une bourse à cette époque, qu'est-ce que ça implique ? Qui a des bourses à cette époque ? De quel ordre sont-elles ?
Alors,
comment sont-elles attribuées ?
C'est une question clé, parce que on s'imagine une Troisième République dans laquelle il suffit de beaucoup travailler, d'avoir des très bons résultats pour avoir une bourse, puis de la bourse, faire des belles études, avoir une bonne position. Dans la réalité, c'était pas du tout ça. il y avait effectivement des opportunités, voilà, qui étaient d'ailleurs largement racontées ensuite sous des formes plus ou moins romanesques. L'exemple voilà, auquel je pense là, c'est Charles Péguy, hein, quand il parle de sa jeunesse. Bon. Mais il faut voir que les boursiers étaient déjà peu. Il y avait peu de bourses, c'était des montants assez faibles, les bourses n'étaient pas nécessairement renouvelées d'une année sur l'autre. Les critères d'attribution ont été longtemps très flous. Pendant une quarantaine d'années, les résultats scolaires comptaient, mais ne donnaient pas droit automatiquement à une bourse. Il y avait un examen à passer pour avoir droit aux bourses, avec un classement. Mais ce classement lui-même, il y avait un jury qui pouvait surclasser ou déclasser des candidats en fonction d'autres critères. Donc il y avait le critère matériel, mais il y avait aussi le critère qu'on appelait de service rendu au pays. Et parfois, c'était aussi la question de l'entre-gens qui prenait le dessus, l'entre-gens des familles. Il y avait une enquête de bonne moralité aussi à une époque pour s'assurer que les familles étaient moralement et politiquement conformes. Voilà. Et tout ça a fait qu'on est passé lentement d'un système où il n'y avait que 5% environ de boursiers dans une génération, ce qui est très, très peu, à progressivement, dans les années 30, une politique plus généreuse où il y a eu environ 25% de boursiers. À partir du moment où des gouvernements progressistes, je pense notamment au cartel des gauches, puis ensuite le Front populaire, se sont mis à marteler que les bourses, c'était un élément de l'ouverture du système éducatif aux classes moyennes et populaires, que ça ne suffirait pas, mais qu'il fallait le généraliser et augmenter les montants et revoir un peu ses critères d'attribution. Mais donc, du coup, c'est une histoire beaucoup plus compliquée que simplement des boursiers qui automatiquement prouvaient leur mérite et devenaient président de la République ou Premier ministre, que sais-je encore.
On chemine doucement vers la libération, qui est l'un des moments clés de mutation, dans le sens où il, par ses troubles, fait tomber les normes et ouvre en ceci un peu les champs des possibles. Et parmi les grandes écoles, une particulièrement va m'intéresser dans cette période. Il s'agit de Sciences Po, qui ne s'appelle pas encore Sciences Po, qui est l'école libre des sciences politiques. Il y a en fait ce que Marc Bloch a appelé une étrange défaite des élites qui, censées être les plus dignes de la nation, les meilleurs individus de la population, ont pour une bonne partie collaboré et ont donc affiché leur déchéance morale, remettant par là en cause l'entièreté du système. Néanmoins, Sciences Po arrive à s'en sortir et là, on s'interroge comment, après un coup de phare aussi évident sur les dysfonctionnements de ce système politique, ou en tout cas de cet idéal politique, comment arrive-t-on aujourd'hui à avoir un système qui n'a pas forcément beaucoup bougé ?
Disons que avant la libération, il y a eu la résistance, et dans la résistance, un certain nombre de gens se sont posés la question des responsabilités des élites dans l'effondrement d'un régime qui avait réussi à tenir plusieurs de longues décennies. Et cet effondrement a été rapide, a été soudain, a été brutal. Il faut rappeler quand même voilà, la drôle de guerre, comment ça s'est passé. Bon, je ne vais pas le faire ici, mais personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi rapide. Et effectivement, avant de parler de collaboration, l'étrange défaite, ça a été écrit avant la politique de collaboration,
oui,
pour en parler.
Oui, parce que Marc Bloch a été tué durant la Seconde Guerre mondiale.
C'est la question de la guerre et donc de comment déjà le système se désagrège. Et donc il y a la question de ce qu'on appelait la lâcheté des élites et l'esprit de caste que favorisait une éducation en vase clos. On parle encore aujourd'hui d'esprit de caste, mais on n'a pas en tête les mêmes réalités. Et être éduqué en vase clos depuis tout jeune, ça ne permet pas de penser à l'intérêt général et notamment à la patrie en danger, si j'ose dire. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand un pays est menacé, qu'il faut mettre en jeu sa vie pour le sauver. Et il se trouve que, parallèlement, un certain nombre de gens venant des milieux plus populaires ont risqué leur vie dans la résistance sans avoir des diplômes, sans avoir des longues scolarités. Ils ont prouvé leur bravoure, mais ils ont aussi prouvé, et c'était le terme qui était utilisé par les résistants, leur mérite, d'une autre façon. Et donc, s'est posée une question, une interrogation fondamentale. Quelle société voulons-nous au sortir de la guerre ? C'est ça, la libération. Comment recréer une société avec des fondements égalitaires et démocratiques ? Donc, il y avait la question du système scolaire en tant que tel, avec le primaire et le secondaire, et le rapprochement de ces deux ordres qui étaient autrefois séparés. Et il y avait aussi que faire au-delà du baccalauréat pour fonder une élite véritablement démocratique, c'est-à-dire une élite qui ne soit pas héréditaire. À ce moment-là, on s'est tourné évidemment vers un certain nombre d'établissements pour savoir que faire pour recréer un système à la fois égalitaire et qui ait le souci du bien commun. Voilà, le Conseil national de la résistance avait ce souci, cheville au corps, et il faut bien voir que l'anomalie majeure, qui est à l'époque, quand on parlait de l'élite politique, il y avait des écoles très très aristocratiques dans le recrutement, comme Polytechnique ou Saint-Cyr, côté militaire, mais il y avait notamment l'école libre des sciences politiques, donc l'ancêtre de Sciences Po Paris, qui était une école à la fois privée, payante, et dont le recrutement social était très 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 resserré autour d'une petite élite, et c'est Marc Bloch, l'historien lui-même, qui disait que c'était l'asile préféré des fils de notables. Et cette école avait pour particularité d'avoir été créée justement en 1871, donc au début de la Troisième République, et surtout une école qui avait, malgré le fait qu'elle était privée, donc école libre ça veut dire privée, le monopole sur l'accès au grand corps de l'État. Et donc, tout le débat à partir du Front populaire pendant la résistance et ensuite à la libération était de démocratiser la haute fonction publique et les grands corps en créant une nouvelle école. Et c'est de là qu'est née l'ENA, l'École nationale d'administration, en 1945, et Sciences Po Paris, qui a remplacé l'École libre des sciences politiques et qui a remplacé un moment où l'École libre des sciences politiques était menacée tout simplement de suppression et de disparition pure et simple au profit des universités. Il y avait dans les rangs des défenseurs de l'École libre des sciences politiques et qui voulaient trouver un compromis, tout simplement des résistants, plutôt gaullistes, qui voulaient faire front, faire face à la menace, pour le coup, communiste, qui, du côté des communistes, il s'agissait de donner ça aux universités ou de créer un autre système dans lequel les élites seraient réellement recrutées de façon démocratique et non pas dans un moyen terme entre les grandes écoles et les universités que représentait à l'époque Sciences Po Paris, puisque ce n'était pas encore une grande école autonome comme on la connaît aujourd'hui.
C'est d'ailleurs tout le paradoxe sur la création de l'ENA, qui était à l'origine un projet de Jean Zay, donc le très fameux ministre de l'Éducation du Front populaire, qui sera lui aussi assassiné durant la Seconde Guerre mondiale et qui finalement va prendre sa place de grande école au même titre que les autres. À un autre moment de bascule, évidemment mai 68, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la question, nous expliquer comment ça va se solder, enfin comment ça va être négocié à l'époque?
Ce qu'on a en tête souvent, c'est le Quartier Latin, les pavés, les grèves étudiantes, puis ouvrières. Bon. Ce qu'on ne voit pas, donc, c'est que mai 68, avant d'être une révolte de la jeunesse en général, ça a été préparé très largement par des mobilisations contre la sélection à l'entrée des universités. Et ça, le fait qu'on l'ait oublié marque un tournant aussi aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu mai 68, sans doute, s'il n'y avait pas eu ces manifestations contre la loi Fouché qui renforçait les conditions d'accès à l'enseignement supérieur pour les bacheliers. C'était un moment où il y avait une pression démographique énorme avec une génération beaucoup plus nombreuse qui accédait au bac. Et donc, comme le bac restait un sésame pour ensuite entrer dans l'enseignement supérieur, il n'y avait pas d'autres conditions. Et parmi le corps enseignant et parmi évidemment les élites politiques, un certain nombre de personnes estimaient qu'il ne fallait pas que ça soit un sésame qui donnait automatiquement droit à faire des études supérieures. Donc il fallait rajouter, alors pour certains c'était un examen de plus, pour d'autres c'était un autre fonctionnement du système d'enseignement supérieur. Et des mobilisations ont eu lieu et se sont coagulées avec d'autres à ce moment-là, qu'on connaît par ailleurs. Et ça a d'abord touché les universités. Ce qu'on ignore et ce que la mémoire collective a totalement occulté jusqu'à présent, c'est l'importance qu'a eu la contestation étudiante dans les grandes écoles, au cœur du système de reproduction des élites, chez des héritiers, pour la plupart, le recrutement était très 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 inégalitaire déjà à l'époque, qui ne voulaient pas nécessairement que leur héritage leur serve à acquérir de nouveaux privilèges, qui ne trouvaient pas juste rentrer par cette voie des classes préparatoires ou des grandes écoles. Et donc il y a eu une révolte des héritiers, par exemple à l'ENSU, mais aussi à Sciences Po, il y a même eu des AG à HEC. C'était vraiment une époque, moi je raconte ça dans mon livre parce que je trouvais important qu'on sache qu'il n'y a pas eu seulement la Sorbonne, Nanterre, puis ensuite Vincennes, il y a eu aussi du côté des jeunes élites un profond vent de révolte, même à Polytechnique, de gens qui refusaient d'être à la fois les soldats du capitalisme, selon les termes de l'époque, mais aussi d'être complice d'une machine reproductive qui mettait à l'écart un certain nombre d'étudiants ou d'élèves qui venaient de milieux modestes et qui n'avaient pas nécessairement le capital culturel pour accéder à ces écoles d'élite.
In fine, un compromis va être trouvé pour sortir de la crise mai 68 et on en arrive à la déviation de la loi Faure. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Alors justement, la loi Faure, donc du nom du ministre Edgar Faure, appelée à la rescousse par le général de Gaulle pour éteindre l'incendie, voilà, elle est votée quelques semaines après le grand chambardement. Et c'est une loi qui refonde l'enseignement supérieur sur des nouvelles bases, qui crée des universités modernes telles qu'on les a connues ensuite et encore jusqu'à aujourd'hui, sur des principes, donc il y en a plusieurs, mais il y a notamment le principe de l'autonomie, le principe de la pluridisciplinarité et de la participation. Hein, l'idée qu'on va élire des syndicats étudiants, des représentants, etc. Et pareil du côté des enseignants. Donc cette loi Faure, elle permet de trouver un compromis, dans un premier temps, en recréant l'enseignement supérieur et en, disons, en ayant un moyen terme entre les partisans de la sélection et puis leurs adversaires, puisque elle permet de maintenir le modèle d'une université dans laquelle on accède directement après le baccalauréat sans condition à l'université. Donc les quelques conditions qui étaient prévues n'ont jamais été appliquées, par exemple faire des stages d'orientation au début, bon, etc. Mais en gros, les partisans de la non-sélection à l'entrée des facs ont gagné. Mais en même temps, cette même loi qui prévoyait au départ d'inclure tout l'enseignement supérieur, eh bien les grandes écoles vont se battre, vont se mobiliser pour ne pas y figurer, et elles vont avoir gain de cause grâce au ministre du général de Gaulle, qui vont se mobiliser en leur nom en disant qu'il faut à tout prix éviter que les grandes écoles soient concernées et qu'elles perdent justement leur statut sur mesure et la main sur le recrutement des étudiants. Et donc c'est tout le malthusianisme historique dont je parle dans le livre qui est en jeu là.
Est-ce que vous pouvez justement sur cette définition l'éclairer également, le malthusianisme?
Bah, c'est le fait de considérer que la valeur propre des écoles, des diplômes, mais aussi de leur enseignement, dépend du nombre des étudiants, et que donc on ne peut pas avoir un enseignement de qualité et une formation de qualité des élites si on ouvre trop les vannes. Donc il faut garder un petit nombre de places. Il faut éviter de s'ouvrir aux 80, et à ce moment-là, c'était précisément ce dont un certain nombre d'écoles ont été menacées. J'ai parlé tout à l'heure de Polytechnique, il y avait aussi à l'ENA, il y a eu plusieurs communiqués des mobilisations chez les énarques, la promotion Jean Jaurès à l'époque, qui demandait à avoir un recrutement plus démocratique à l'ENA, et à l'ENS Ulm, il y a eu aussi un projet alternatif pour en finir avec le système des concours et imaginer autre chose. Mais quand on fait ça, évidemment, ça veut dire que les effectifs, il faut les revoir et qu'ils peuvent potentiellement diminuer la valeur relative du diplôme et du titre même de normalien, d'énarque, de polytechnicien, voilà.
C'est vraiment le principe même de la raréfaction du bien. Pour donner de la valeur au gâteau, on restreint le nombre de ceux qui peuvent en manger.
Voilà, et ça c'est une politique qui est explicite et qui est portée par une organisation qui s'appelle la Conférence des Grandes Écoles, qui naît en 68, justement pour se défendre et pour riposter à une menace de déstabilisation, pour maintenir ce dualisme fondamental entre université et grandes écoles. Les grandes écoles finalement échappent à la loi Faure, et donc le dualisme est conservé, et la Conférence des Grandes Écoles qui... née en 68, va se s'officialiser en 73 sous forme d'association, va ensuite œuvrer non seulement à la défense des intérêts des grandes écoles, mais à la promotion de leur modèle, si bien qu'aujourd'hui, c'est la Conférence des grandes écoles qui est l'un des porte-paroles majeurs et principaux de l'ouverture sociale des grandes écoles qui veille au maintien du dualisme dont j'ai parlé.
Restez avec nous, nous allons marquer une courte pause musicale, et en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la réalité déroge à sa sélection thématique pour dédier celle-ci à toutes les femmes, grâce auxquelles la société tient et qui ne demande en retour que de vivre de leur sueur et de leur travail. Juste un tout petit peu de respect. C'était Aretha Franklin avec son tube de 1967, Respect. L'occasion pour moi de rappeler que le très beau documentaire Debout les femmes est toujours au cinéma dans quelques salles en France, à peu près 200, et dans 5 à Paris. Courez-y. Paul Pasquali, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Avant la pause, nous arrivions à la création de la Conférence des grandes écoles qui s'est forgée dans les luttes plurielles de mai 68 et qui s'officialise au début des années 70 en association. Elle va permettre d'aboutir à une stratégie de protection des intérêts très fonctionnelle, à la fois en instaurant une compétition contrôlée entre les grandes écoles, qui permet une différenciation, tout en restant solidaire si l'une d'elles est attaquée. Ce que vous avez appelé une convergence objective des luttes. Et dans la lignée de cette méthode, certaines grandes écoles vont instaurer des barrières à l'entrée, au rôle plus qu'ambivalent.
Alors oui, disons qu'après la loi Faure, voilà, les grandes écoles, c'est les établissements d'enseignement supérieur qui ont le droit, et de plus en plus le devoir, de sélectionner en fait, leurs étudiants par le biais des classes préparatoires. Il faut voir que d'un point de vue démographique, il y a de plus en plus de bacheliers, de plus en plus d'étudiants. Donc la sélection se fait, si j'ose dire, à la fois statistiquement, mécaniquement, en amont, avant le bac, et avant le fait d'aller vers des filières générales ou techniques. Mais elle se fait aussi par le biais de concours qui ne sont pas neutres, qui ne sont jamais neutres, hier comme aujourd'hui, socialement. Ces concours, pour certaines écoles, existaient déjà. On a parlé du cas de Polytechnique, les écoles normales supérieures. Bon. Pour d'autres, c'était des examens plus ou moins, sélectifs, ou alors des concours qui étaient sélectifs, mais beaucoup moins que ça est devenu depuis. Je pense notamment à HEC. HEC était une école de refuge pour fils à papa jusque dans les années 50. Et ensuite, via les mathématiques, et le grand tournant où les mathématiques ont pris le dessus sur les lettres, elle est devenue une grande école sur le modèle de Polytechnique, en fait, de plus en plus sélective. Puis, ça a été le tour de Sciences Po. Et donc, il y a eu d'abord un relèvement des exigences scolaires des écoles qui avaient ou des concours ou des examens, disons, qui filtraient à l'entrée des études supérieures. Et de plus en plus, des écoles, disons, de second rang ou de moindre importance à l'époque, en tout cas, comme les instituts d'études politiques, se sont mis à créer des concours et à fonctionner comme de véritables écoles, alors plus ou moins grandes, et à sélectionner des étudiants dans le contexte où il y avait de plus en plus d'étudiants, puisque les années 80, c'est un moment où, ce qu'on appelle la seconde explosion scolaire, il y a un très très grand nombre d'étudiants qui arrivent, et ces nouveaux étudiants, il faut les absorber. Et c'est le moment où naît l'université de masse, avec ces nouveaux étudiants, qui absorbent une grande partie de ces nouveaux étudiants, et les grandes écoles, à ce moment-là, décident de fermer leurs portes, ou en tout cas de filtrer à l'entrée. Il y a un tas de petites écoles qui apparaissent aussi, les écoles post-bac, etc., qui servent aussi de refuge à des étudiants de milieu supérieur qui ne sont pas tellement bons scolairement, parce qu'il ne faut pas croire que classe supérieure, ça veut dire qu'on est bon scolairement, et classe modeste, on serait mauvais. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La question pour beaucoup de familles aisées à ce moment-là, c'est de faire face à ce qui apparaît comme une menace de dévaluation des diplômes, puisque si tout le monde a le bac, si tout le monde arrive dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce qui va les différencier? Et c'est à ce moment-là que tout un discours élitiste décomplexé se met à refaire surface, alors que pendant 20 ans, il avait complètement perdu de sa superbe. Il ne fallait pas être élitiste pour être à la page, hein, après 68 au contraire. Et ce retour en force de l'élitisme arrive au moment justement où il y a cette pression démographique et où il faut chercher des remparts pour résister à cette pression démographique et par là relever la sélectivité scolaire qui est au fondement du prestige des grandes écoles. Plus c'est difficile d'y rentrer, plus l'école est prestigieuse. Et donc c'est là où en fait les grandes écoles doivent tenir leur rang, les petites écoles doivent ressembler aux grandes. Il y a une aspiration par le haut, si on veut, des exigences scolaires et donc des barrières à l'entrée des élites et de leurs antichambres scolaires. Et donc, il n'est pas si hasardeux ensuite de découvrir, si j'ose dire, que il y a un resserrement de voilà des possibles à l'entrée de l'enseignement supérieur consécutif en fait à cette évolution historique là.
Et en même temps, c'est la période où les premiers dispositifs vraiment volontaristes de d'égalité des chances sont mis en place. Je pense notamment à la troisième voie de l'ENA qui existera pour une courte durée, mais de 83 à 85. Comment concevoir l'apparition de ce type de dispositifs qui vont continuer à se développer avec leur descendance dans les années 90, 2000, 2010
La troisième voie de l'ENA, c'est un peu à contre-courant en fait qu'elle intervient. C'est plutôt le résultat de l'alliance momentanée aussi entre communistes et socialistes. Il faut voir qu'après 68, le programme commun voilà, entre Parti socialiste et Parti communiste prévoyait, en cas de prise de pouvoir, la fusion entre grandes écoles et universités, donc la disparition de fait du dualisme. Quand le candidat Mitterrand a fait ses 110 propositions, on ne retrouvait plus cette idée. C'était une manière, je pense, réaliste, intelligente pour lui de ne pas trop se mettre à dos un certain nombre de personnes, y compris dans son camp. Ensuite, effectivement, le ministre communiste de l'époque, Anicet Le Pors, a mis en place ce qui encore aujourd'hui représente un dispositif inédit d'ouverture sociale, même si le mot n'existait pas encore, et qui consistait à revoir les critères de sélection et aussi les définitions du mérite pour faire accéder à la haute fonction publique, donc au sommet de l'État, un certain nombre de personnes qui ne pouvaient accéder à l'ENA ni par le concours réservé aux étudiants, ni par le second concours qui est réservé donc aux fonctionnaires. Et donc il s'agissait de représentants nationaux ou locaux de syndicats représentatifs, d'élus de locaux, notamment des collectivités locales, et d'élus de bureaux, d'associations reconnues d'utilité publique ou de sociétés mutualistes ou d'organismes paritaires du style caisse d'allocation familiale, caisse primaire d'assurance maladie, etc. Il y a eu des débats absolument terribles. La droite a fait barrage, il y a eu énormément de secousses au niveau médiatique. Les fantômes de 68 se sont soudainement réveillés. On a accusé la gauche et notamment les communistes de vouloir brader la haute fonction publique et de l'ouvrir à des amateurs, c'est les mots qui étaient utilisés, en bradant le concours. Et ces élèves de la troisième voie, qui effectivement n'a duré que 3 ans, puisque la droite revenue au pouvoir en 86 l'a immédiatement supprimé, ceux qui sont passés la trentaine d'énarques de la troisième voie, avec des profils très différents, il y avait pas mal de syndicalistes notamment, et ils ont été traités vraiment de manière extrêmement discriminatoire. Et ça, c'est intéressant à raconter aussi. Ça montre les réactions de l'élite quand elle est trop contrainte de s'ouvrir. Et donc, je raconte comment ils ont été notamment systématiquement oubliés lors des cérémonies entre énarques. Dans les annuaires de promotion, il y avait une astérisque qui a collé à leur nom, très stigmatisante, qui disait « élève rattaché à l'ENA » et non pas « élève de l'ENA ».
Justement, c'est un point sur l'ouverture sociale. Là encore, il y a toute une complexité qui peut s'opérer. Vous le notez dans votre livre, 40% des étudiants à passer par les filières ZEB, donc qui ont été mis en place au début des années 2000, sont des enfants de cadre. Finalement, il y a une question qui se pose sur la nature finalement de cette ouverture et si elle ne s'apparente pas plutôt à une homogénéisation. Les filières d'égalité des chances ne se limitent-elles pas à une sélection des plus favorisés chez les défavorisés et à piocher en quelque sorte ceux qui leur ressemblent le plus de l'autre côté de la frontière sociale, pour reprendre votre métaphore, même en parlant des enfants et des étudiants qui proviendraient de milieux très défavorisés? Est-ce que vraiment l'institution qui les reçoit s'adapte d'une quelconque manière ou s'enrichit d'une quelconque manière autre que publicitaire de leur venue ?
Alors, les filières ZEP dont vous parlez, c'est les conventions éducation prioritaire de Sciences Po. Donc, c'est-à-dire un dispositif très particulier qui n'existe qu'à Sciences Po Paris, parce que chaque école, il faut bien voir, a son propre programme, ses propres critères de sélection, ses propres cursus, etc. Donc, effectivement, les conventions ZEP à Sciences Po, voie d'admission spécifique, ont été créées en 2001, ça fait 20 ans, et on s'est rendu compte... depuis quelques années, qu'il y avait une sorte d'effet d'aubaine, c'est-à-dire que les lycées partenaires, d'où viennent en fait un certain nombre d'étudiants donc, qui viennent d'établissements classés en éducation prioritaire ou des labels équivalents, venaient en fait de milieux soit de classe moyenne, soit des classes supérieures, et que finalement les classes populaires étaient devenues minoritaires au sein même du dispositif qui était censé favoriser la diversité sociale. Donc effectivement, ça interroge. Dans d'autres écoles, ce qui interroge, c'est à la fois l'extrême lenteur des évolutions, puisque beaucoup d'écoles ont mis en place simplement des programmes de tutorat, en fait, qui en fait sont très qui ne peuvent pas avoir d'effet structurel, qui concernent une petite minorité de lycéens.
Qui jouent sur l'autocensure, ce qui est souvent mis voilà. en avant et qui, d'une certaine manière, oui, effectivement, nient ou en tout cas font abstraction de toutes les autres raisons structurelles aussi dont vous parlez et qui produit justement cette autocensure.
Oui, ces programmes tutorat, ils visent à lever les autocensures, ils visent à renforcer aussi le capital culturel et parfois relationnel d'enfants de milieu modeste. Il ne faut pas nier ça. Mon premier ouvrage, Passer les frontières sociales, il vise à montrer qu'il y a des effets biographiques réels, mais qu'il ne faut pas extrapoler à partir des effets biographiques réels des effets structurels sur la société. Et là, il y a un tour de passe-passe qui, au niveau médiatique, au niveau politique, peut être très profitable quand on veut monter en généralité, mais qui, d'un point de vue sociologique, ne résiste pas à l'examen des faits, qu'ils soient statistiques ou, dans mon cas, ethnographiques et de longue durée, puisque j'ai multiplié les entretiens sur une longue période avec plusieurs étudiants bénéficiaires de ces programmes. Et ce qu'on perçoit très bien, c'est que il y a dans ces programmes, comme vous l'avez dit, y compris dans les écoles qui n'ont pas voulu prendre la voie de filières d'admission spécifiques comme à Sciences Po Paris, il y a un certain nombre de processus qui pèsent sur le choix d'abord des heureux élus qui vont être pris pour des programmes tutorat ou qui vont ensuite réussir les concours, si bien que c'est, comme vous l'avez dit, pas forcément les plus défavorisés qui vont réussir à entrer dans ces programmes, voire dans ces écoles.
Ce qui n'est pas un problème d'opérer une ouverture pour les classes moyennes, mais en fait c'est surtout que ça loupe les publics qu'elles sont censées cibler.
Alors oui et non, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours eu du flou dans le discours de l'ouverture sociale. Déjà, on parle d'ouverture, on ne parle pas de démocratisation, on parle d'égalité des chances, on ne parle pas d'égalité tout court. Et parfois, on parle de diversité ou de diversification. Et la diversité, elle commence où ? À 1%, ça commence à devenir divers, ou c'est 20%, ou c'est 30%. Et derrière ça, il y a tous les débats sur les boursiers, sur les pourcentages de boursiers, sur les quotas de boursiers. Il y a eu des réformes des systèmes de bourse depuis les années 2010 qui font qu'il y a eu une moyennisation de la population des boursiers. Aujourd'hui, parmi les boursiers, il y a beaucoup plus de classes moyennes qu'avant. Au début des années 2000, quand on disait il faut plus de boursiers, ça voulait dire c'était une sorte de métaphore, de raccourci pratique, parce que c'est plus facile de savoir qui est boursier que non du point de vue de l'administration, et ça recoupait grosso modo le critère social. À partir du moment où le critère boursier est devenu un critère d'action publique, ça a favorisé surtout les boursiers les moins pauvres, si j'ose dire, donc des boursiers de classe moyenne.
Des premiers échelons 0, 1, 2.
Exactement. Et d'ailleurs, quand on regarde qui bénéficie des programmes d'ouverture sociale et qui fait cette fameuse diversité sociale qu'on mesure à l'aune des taux de boursiers, en disant « Ah, on a plus de boursiers, donc HEC, à Sciences Po, on a 3, 4, 5% de boursiers selon les mesures qu'on fait », eh bien, on constate que ces boursiers en plus ne sont pas nécessairement de milieux populaires. Mais ce n'est pas forcément gênant pour les écoles en question, bien sûr. Il faut ensuite se justifier. Pourquoi on n'a que ces boursiers-là? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais au fond, la diversité implique les classes moyennes, puisque même les classes moyennes ont disparu du recrutement de ces écoles. C'est vraiment les classes supérieures, voire très supérieures, qui rentrent dans les écoles les plus prestigieuses. Évidemment, si on prend des écoles de commerce de province ou des écoles d'ingénieurs de province, c'est autre chose. Mais si on parle des écoles qui forment vraiment aux positions les plus élevées dans la société, qu'elles soient économiques, politiques ou haute administration, effectivement, il y a un recrutement de plus en plus élitiste, et n'importe quel type de diversité, d'ailleurs, il y a un flou entre diversité sociale, diversité ethnique, et ça savamment entretenu, fera l'affaire, puisqu'on affichera une autre image un nouveau cap, etc. Sauf que à chaque fois qu'on fait le bilan de ces dispositifs, au bout de 10 ans, on constate la lenteur et surtout la modestie des effets en termes structurels sur le recrutement social de ces filières d'élite.
Une fois posées toutes ces bases et mis à jour les fonctionnements, les paradoxes et les petitesses de ces grandes écoles, parfois, est-ce qu'il faut rêver d'intégrer ces grandes écoles ? Une fois qu'on sait que par là, on valide en quelque sorte la croyance méritocratique, la hiérarchie sociale qu'elle suppose, qu'elle impose, qu'elle valide, qu'elle perpétue.
Alors moi je suis sociologue, donc je vous doutez bien que pour moi c'est pas tellement en termes de... Je vais pas juger ça. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a un attachement aux valeurs de hiérarchie, aux valeurs d'ordre, de discipline et de classement. Ça c'est très important, la logique du classement. C'est pour ça que Parcoursup, on l'oublie, ça naît à la base dans les écoles d'ingénieurs et ensuite on l'a appliqué pour les prépas. Et après, quand il s'est agi de réguler les financements publics et de passer à un budget de plus en plus austéritaire pour réguler la pénurie, on a fait des classements. Et donc maintenant, la logique de l'algorithme, c'est de faire ces classements qui au début étaient pensés pour l'élite et pour affecter des étudiants dans les filières d'élite. Sur la question de l'alternative, je pense, moi, toute ma réflexion consiste à dépasser les réflexions binaires en termes de suppression ou conservation, en fait, du dualisme. Non pas que je sois un partisan du dualisme, on se doute que c'est pas trop ma tasse de thé, mais il me semble qu'on peut pas croire qu'on va régler la question, qu'on va tout à coup voir disparaître la reproduction sociale parce qu'on va supprimer les grandes écoles. Déjà, la question qui se pose, c'est que fait-on si réellement on supprime les grandes écoles ? Ça, c'est une première question. Et beaucoup de personnes qui n'auraient pas la réponse, alors même que spontanément, elles voudraient la fin des grandes écoles. Deuxièmement, on aurait beau supprimer les grandes écoles, que se passe-t-il en amont des grandes écoles ? Qu'est-ce qui se passe dans le système scolaire, primaire, secondaire ? Il y a des inégalités sociales qui se creusent très tôt et qui sont à la fois liées à l'enseignement, à l'école, et aussi à d'autres types d'inégalités, des inégalités qui pèsent sur les parents, inégalités sociales et économiques. On les règle pas en supprimant des grandes écoles. Voilà.
Je pense également au discours de François Dubé, qui est directeur d'études à l'EHESS, qui va évoquer toute la relation à l'apprentissage, à l'échec, aux difficultés scolaires, etc., qui résulte très tôt. Bon, lui, il a des mots très forts, hein, il va parler d'humiliation, de détérioration de la confiance en soi, qui sont en fait sous-tendus par la méritocratie qui construit la valeur de l'individu par rapport toujours aux autres, et la mise en compétition, et des études l'ont montré, qu'une société qui se base sur le mérite ou qui dans une expérience base un jeu sur le mérite vont avoir tendance à résulter dans des réponses beaucoup plus individuelles que des jeux qui seraient basés sur la chance, par exemple.
Oui, sur le que faire, je pense qu'il faut déjà rouvrir le débat. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a un débat sur le dualisme de l'enseignement supérieur ? Est-ce que réellement, on pose la question en ces termes ? Quand on demande plus de moyens pour les universités, est-ce qu'on se rend compte qu'avoir plus de moyens pour les universités, ça supposerait normalement, en bonne logique, de revoir en fait les moyens tels qu'ils sont répartis entre grandes écoles et universités ? Peut-être de revoir le statut des élèves des grandes écoles, leur rémunération. Tout à l'heure, vous avez passé un extrait de Thomas Piketty qui disait très bien les choses. Je pense que sans revoir la fiscalité, sans revoir le taux d'encadrement en premier cycle, surtout en ce moment, on sait que les effectifs étudiants augmentent et que les taux d'encadrement ne bougent pas ou diminuent. Il y a une réflexion à avoir sur la dégradation au long cours des conditions d'études à l'université, de ce qui fait que de plus en plus d'étudiants ont recours au travail à côté des études, ça les empêche. C'est l'inverse, c'est le monde à l'envers. Hein. Dans les grandes écoles, beaucoup d'écoles, soit elles payent les étudiants, soit les étudiants font des prêts, mais qui ont des parents qui peuvent les aider à rembourser ces prêts. Dans les universités, on n'a à la fois pas grand-chose à la base, et on va vers ensuite des études de plus en plus difficiles à financer. Donc, et les bourses, telles qu'elles existent aujourd'hui, sont totalement insuffisantes. Donc ça, c'est un premier aspect. Par contre, sur la question de ce débat qu'il faut ouvrir, moi je pense que ça mériterait d'inclure d'autres acteurs que les filières d'élite dans les discussions. Donc voyons ce que les syndicats d'étudiants, ce que des boursiers, ce que des syndicats de salariés aussi ont à dire
les
sur
universitaires français
le système.
Et étrangers aussi, vous appelez également un regard.
Oui, les universitaires ne sont plus du tout consultés, contrairement à ce qui se passait auparavant, sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et le débat public se réduit soit des négociations, des concertations avec le ministère dans des commissions qui vont rendre des rapports, soit à des polémiques qu'on oublie aussitôt. Ce qu'il faut, c'est un débat public contradictoire, de qualité et qui soit politiquement contraignant, qu'on aboutisse à des solutions qui s'appliquent, soit sous forme de loi, soit sous forme de référendum, et qui s'accompagnent d'un certain nombre de réformes qui seraient très fortes, notamment budgétaires, par exemple en taxant les dons qui sont faits par les anciens élèves des grandes écoles aux grandes écoles. Via des fondations privées, et qui, en fait, on pourrait éventuellement taxer pour redistribuer ça aux étudiants des universités sous forme de bourses. Et il y a, par ailleurs, toute une réflexion à avoir sur l'aval, sur le marché du travail. Que font ensuite les diplômés des universités et ceux des grandes écoles? Se rejoue à ce moment-là le dualisme dans ses effets les plus pernicieux, les plus violents, dans des formes de cooptation, comme vous disiez, ou en tout cas comme des effets, des marqueurs, en fait, hein, des cartes de visite. On a fait telle école, donc on est recruté un peu facilement, plus facilement que si on vient d'une université, parce que l'école est réputée. Mais c'est faire abstraction de la question des savoir-faire réels et le poids du CV, que le CV a aujourd'hui, le poids des réseaux est démesuré par rapport à la question des compétences à proprement parler. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je préconiserais d'instaurer des proportions minimales de diplômés des universités dans les entreprises, dans les partis politiques, les assemblées électives, les cabinets ministériels, pour que réellement, à la sortie du système universitaire et des grandes écoles, il y ait à nouveau une sorte de redistribution des chances et qu'on ne se borne pas donc à une question purement scolaire. Ça, c'est très important et c'est aussi une façon de vous répondre. Il ne suffit pas de supprimer les grandes écoles, il faut imaginer des dispositifs réalistes, applicables immédiatement au système tel qu'il est, sans pour autant laisser de côté une réflexion plus fondamentale sur un autre système, une alternative de fond qui mettrait fin au dualisme.
Oui, vous évoquez d'ailleurs la possibilité de penser des lois de parité, non pas de genre, mais sociale. Bon, qui là aussi présenterait tout un défi pour déterminer les catégories et distinguer une classification. Paul Pasquali, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter de votre livre qui, je le rappelle, vient de sortir « Héritocratie, les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite » 1870-2020. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir laissé traîner vos oreilles curieuses. C'était La Réalité, présentée par votre fidèle Elsa Gavinet et orchestrée ce soir par la baguette experte de Suzanne. Bonne soirée sur le 93.9.
Ça, c'est la réalité.